بقتش يرجلا في الزمان ما بقات الكلمة غير كتربت اللسان وفعاي المعدومة ما بقتش يرجلا في الزمان ما بقات الكلمة غير كتربت الهدرة بلسان وفعاي المعدومة يظهر في النياب ويزهر كسباع يقعندي ومن بعدي تنقطع ما قنع في حياتي وعمره الأشباع يجي لعندك يحضرك تكون في الوسع ونهار ضياق عليك تقول ما اسمع قال كلمة واليوم عليها رجع تحت ظروف الهومة تحت ظروف الهومة ما بقتش يرجلا في الزمان ما بقات الكلمة غير كتربت الهدرة بلسان فعاي المعدومة ما بقتش يرجلا في الزمان ما بقات الكلمة غير اقتربت الهدرة بلسان وفعاي المعدومة واحد باقي ساكت بتقول شي مخاصم ويقول أنا يا نتكلم غير كتوالم ما نفع روحه لا غيره بشي كلايم الباطل صاير قدامه بالعرار إذا أنت قوي تكلم يهدرك الحاكم داخل في سوق الجملة بلا دراهم ناس بكريش تحت ورمات المحارم وين تبان هدومة وين تبان هدومة ما بقتش يرجلا في الزمان ما بقات الكلمة غير كتربت الهدرة بلسان فعاي المعدومة ما بقتش يرجلا في الزمان ما بقات الكلمة غير كتربت الهدرة بلسان فعاي المعدومة يا رجلاوي حضر يقول أنا يا نمشي غير بالقدر عايش بالحيلة عام وطناشن شهر ما يفرق بين اليابس والخضر بين الأمة يرفع صوته بالجهر إذا تحطوا وسط الشهداء يعود مر عينه تلعب من فوق لتحت كنسر ما يقدرش الحرمة ما يقدرش الحرمة ما بقتش يرجلا في الزمان ما بقات الكلمة غير كتربت الهدرة بلسان وفعاي المعدومة ما بقتش يرجلا في الزمان ما بقات الكلمة غير كتربت الهدرة بلسان وفعاي المعدومة
chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb sur les ondes de Radio Centre-Ville en cette soirée du 8 décembre. Il a neigé beaucoup, il fait froid, c'est l'hiver au Québec et pour vous chauffer ce soir, on vous propose un sujet assez chaud. On revient sur les accommodements raisonnables. Une façon de faire des économies à Hydro-Québec. Avec vous au micro et à la technique, Lamine. Bien sûr, on a commencé avec Kamel Msaoudi, parce que l'Algérie a perdu Kamel Msaoudi le 10 septembre 1998, ça fait 9 ans. Allah yirhamo yusalih. Chers auditeurs, chères auditrices, donc vous êtes bien à l'écoute du 102.3 FM avec l'émission Taxi Maghreb, avec vous Lamine comme d'habitude, une émission qui va rester avec nous, avec vous jusqu'à minuit, donc de 22h30 à minuit. Ce soir on va parler des accommodements. On sait très bien que la commission de Bouchard-Taylor arrive à la fin de son marathon qui lui a donc permis de parcourir le Québec en terminant à Montréal et en terminant depuis la semaine passée et aussi la semaine prochaine au niveau du forum national, donc avec l'intervention des organismes au niveau national au Québec. Plusieurs organismes de la communauté musulmane ont été invités, soit au niveau des essentiellement de Laval, de Montréal, de Sherbrooke, là où il y a une présence musulmane assez importante, et aussi la semaine passée, plutôt la semaine prochaine avec le forum national, les forums nationaux, donc il y aura aussi des organismes qui vont intervenir, et entre autres l'association Astrolab, qui son nom a été associé à une affaire liée aux accommodements raisonnables. On va revenir tout au long de l'émission donc sur ce sujet avec nos invités. Nos invités ce soir, donc je vais recevoir Monsieur Frédéric Castel, qui est religiologue à l'UQAM, qui a fait beaucoup de recherches concernant la démographie, on peut dire, des communautés religieuses à Montréal et surtout la communauté musulmane. Je reçois aussi Abdelaziz Jaoud, qui est doctorant en sociologie, très connu au niveau du milieu associatif donc de la communauté musulmane, aussi comme étant un journaliste qui écrit beaucoup sur plusieurs sites au niveau du net. Et nous allons recevoir aussi des membres de l'association Astrolab, Dr Akram Ben Aliya, qui est responsable de la communication et des relations extérieures au niveau d'Astrolab, membre du CA, et aussi Dr Nassima Mahia, qui est membre et porte-parole d'Astrolab. Je vais commencer en disant bienvenue à nos invités. Bienvenue à tout le monde.
Bienvenue.
Bonsoir.
Bonsoir. Pour commencer, la première question que je vais vous poser à vous tous, donc c'est à vous de choisir qui va parler en premier, c'est ça a commencé, on peut dire, par quelques articles de quelques journalistes, entre autres Martineau. Ça a abouti à un sondage, c'était la fin de l'année 2006, début de l'année 2007, et les Québécois ont découvert qu'ils sont à 57% racistes. Un matin, c'était je pense un vendredi, et avec le temps, ça s'est développé, les élections arrivent, M. Charest décide de mettre en place une commission pour régler les problèmes des accommodements qui a été vu au Journal de Montréal, à TVA et dans d'autres médias seulement. Et depuis le temps, donc deux commissaires très crédibles dans le domaine scientifique sur la question donc de l'intégration, de l'interculturel, du multiculturel, ont mis en place un projet qui consiste au début à élargir leur mandat, parce qu'il faut mentionner que les deux commissaires ont demandé à élargir leur mandat à non seulement la question des accommodements, mais plutôt à la question de l'intégration. Et il y a eu des forums qui ont été lancés à travers la province depuis des semaines, depuis même des mois, et on a entendu beaucoup de choses de la part des Québécois. C'est la dernière semaine, puisque les forums régionaux, on peut dire, sont arrivés à leur fin, et c'est la semaine prochaine on aura juste les forums nationaux où des organismes au niveau national, bien sûr au Québec, vont intervenir sur la question, entre autres la situation Astrolab. La question que je vous pose à vous tous: que pensez-vous de ce qui s'est passé en 2006 au Québec sur la question des accommodements raisonnables? On va commencer avec notre invité Frédéric Castel.
Mon Dieu, c'est une question qui demanderait tout un développement, parce qu'il y a plusieurs dimensions qui sont sollicitées, sociologiques, psychologiques et autres. Je suis obligé de dire que c'est une période navrante de notre histoire, absolument. Si on parle plus précisément des musulmans, ce qui se développe, ce qui s'entend, notamment à la commission Bouchard-Taylor, c'est beaucoup... on parle du musulman imaginaire. Alors, ça prendra beaucoup de travail pour découvrir les musulmans réels, si tant est que ça existe, compte tenu de la pluralité de la communauté. C'est un débat qui, à mon point de vue, depuis le début... glisse d'une saison à l'autre, d'un sujet à l'autre, sans que jamais rien ne soit réglé. Donc, on est parti de quelques cas isolés d'accommodement raisonnable, sans que jamais personne n'ait pensé à faire le B.A.B.A., qui est de définir ce que c'est qu'un accommodement, pour qu'on évite de dire n'importe quoi. Ça a débouché sur la laïcité. Encore une fois, personne ne songeait à définir ce que c'est que la laïcité. On parle de toutes choses et de leur contraire. De là s'engageait inévitablement le débat sur l'immigration, surtout à partir du mois d'août, et avec tous les commentaires et tous les propos possibles. Et de là, bon, ben, d'autres sujets s'enchaînent sans fin, ce que jamais rien ne serait. À mon point de vue, là, c'est vraiment compliqué. Bien que, curieusement, c'est pendant le mois du Ramadan que je trouve que c'était le pire des moments au niveau des opinions. Et au sortir justement du Ramadan, je fais un lien, mais c'est purement factuel. je sens que le vent tourne malgré tout. On dirait que les gens à qui on a donné la parole, les quelques individus, c'est important de le dire, c'est des individus qui ont donné une image des musulmans presque grotesque par moment. Maintenant, ces gens-là n'ont plus que la cote dans les médias. Ça me paraît assez évident. Ils sont plus pris au sérieux. On ne les voit plus ni dans les médias télévisés, ni dans les journaux. Et... ce qui est intéressant, un article, je trouve, qui a fait du bien, l'article de Laure-Julie Perrault, il y a environ 2 semaines, qui dit « On déboulonne les préjugés les plus courants que l'on entend à Bouchard-Taylor. » Et depuis ce temps-là, je trouve que le vent tourne.
Merci, Aziz, ton point de vue par rapport à ça.
Moi, je pense que, comme Frédéric Castel, dans le sens où c'est une problématique très complexe, où il y a différents facteurs qui rentrent en compte, et puis comme ça a été un peu abordé dans ta propre introduction, Lamine, il y a cet aspect médiatique, donc la couverture médiatique a un peu gonflé la problématique des accommodements raisonnables. Donc on l'a présenté sous le mode de la crise ou du drame. Mais il reste qu'il est important aussi de dépasser peut-être le regard médiatique pour être capable un peu de comprendre qu'au-delà de ce que les médias ont apporté en termes de dramatisation, il y a effectivement un problème au niveau de la société québécoise, un questionnement, je ne dirais pas nécessairement un problème, mais un questionnement sur l'arrimage entre les revendications d'une majorité d'ascendance française qui se sent un peu fragilisée sur le plan identitaire, qui se questionne, qui voudrait pouvoir protéger son identité, la promouvoir, et la présence de plus en plus importante d'une immigration qui vient de plus en plus de l'extérieur de l'univers culturel judéo-chrétien. Donc moi je pense que le questionnement à la base, il est sain, c'est tout à fait sain pour une société moderne telle que le Québec, qui est ouverte à l'immigration, de se poser ces questionnements. Maintenant, effectivement, je suis d'accord sur le fait que la couverture médiatique n'a pas facilité de poser ces questionnements dans un cadre serein. Elle a plus poussé vers la dramatisation et la crise. Mais globalement, moi, je reste satisfait du fait que les commissaires ou la commission Bouchard-Taylor et bien voulu élargir le questionnement, parce que c'était clair que ce n'est pas nécessairement le principe de l'accommodement raisonnable pris dans son sens juridique qui posait problème. C'est plus un malaise identitaire qu'il fallait, crever l'abcès, donc permettre au plus grand nombre de citoyens de se prononcer sur ce malaise, quitte à entendre parfois des propos qui étaient un peu xénophobes. Mais moi, je reste convaincu que la majorité des prises de parole ont été des prises de parole tout à fait civilisées, tout à fait citoyennes, même si je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a eu certains individus, et je dirais peut-être même certaines institutions, parce que ce n'est pas seulement des individus qui ont pris la parole et qui ont pris la parole de façon un peu xénophobe. C'est pas seulement des individus, il y a des organismes qui ont un peu poussé vers ce type de discours.
Je reviens maintenant au porte-parole d'Astrolab. Comme je l'avais dit en introduction, un des sujets chauds, au fond, un des exemples qui a été cité pendant la tempête, non pas la tempête de neige, mais la tempête des accommodements raisonnables, c'est l'histoire de la cabane à sucre, et l'association Astrolab s'est retrouvée dans cette tempête, peut-être sans le vouloir. Je poserai la question à docteur Akram. Akram, vous avez vécu cette situation difficile parce qu'on vous a cité comme étant un exemple d'abus d'accommodement raisonnable. Donc je vous donnerai l'occasion d'expliquer le contexte de ce qui s'est passé réellement. Mais à partir de là, quelle serait votre appréciation en tant qu'association qui travaille à aider la communauté, donc entre autres musulmane, à s'intégrer au Québec? Quelle serait votre appréciation après cet événement et les conséquences de tout ça par rapport à ce qui s'est passé avec la commission depuis ce temps-là?
Salam alaikum, bonjour tout le monde. Effectivement, nous avons été mêlés malgré nous en ce qui concerne l'affaire dite de la cabane à sucre. Bon, même si je dirais actuellement on n'aime pas trop revenir là-dessus, parce que bon, on est plus concerné ou on s'intéresse plus aux enjeux qui sont autour de la commission des accommodements raisonnables et comment régler ça. Et donc plutôt on s'intéresse donc aux enjeux qui sont autour des questions qui ont été médiatisées ou faussement médiatisées. Mais bon, pour les auditeurs, effectivement, c'est bien de revenir juste pour rappeler. L'affaire de la cabane à sucre, bon, comme chaque année depuis, je crois, 4 ou 5 années, Astrolab organise une sortie à la cabane à sucre où les membres de la communauté musulmane, notamment les membres de Astrolab, on va tous, bon, on passe une journée, c'est intéressant pour les enfants, pour les adultes, c'est une façon aussi de se rencontrer pour apprécier la culture locale. Et bon, malheureusement, il y a eu effectivement un incident. Nous, à chaque année, on s'organise avec le propriétaire de la cabane à sucre pour faire justement, en plus de bon, la nourriture, l'organisation de ce qu'on pourrait faire sur place, mais en même temps, la prière, justement, la prière du Dohr, généralement, on la fait sur place. Effectivement, tout a été fait avec le propriétaire. On s'est entendu pour qu'on la fasse comme d'habitude. D'habitude, on la faisait, on organisait des sorties ailleurs. C'est pas forcément dans la même cabane à sucre qu'on allait avant. Et malheureusement, ce jour-là, il y avait un achalandage parce qu'il faisait très beau. Il y avait beaucoup de monde. Même le propriétaire était submergé, était dépassé. À un moment donné, il nous a demandé si on pouvait, plutôt que de faire la prière à l'endroit où c'était déjà décidé auparavant, qu'on aille dans une autre salle afin qu'il puisse libérer la salle où justement pour que les autres qui attendaient, les autres clients qui attendaient pour faire pour passer justement au dîner. Malheureusement, c'est à ce moment-là que le problème a surgi. C'est que apparemment, nous, on a en tout cas fait notre prière sans aucun problème. Le propriétaire s'est arrangé pour vider ou pour arrêter la musique parce que c'était une salle où il y avait de la musique. Bref, pour être très en résumé, donc tout s'est très bien passé. Plus tard, en rentrant chez nous, deux jours après, on s'est rendu compte qu'il y avait une journaliste qui a essayé de nous appeler pour nous dire qu'il y a quelqu'un qui s'est plaint, qui se dit qui a été offusqué, comment on fait la prière dans une cabane à sucre. Bon, pour ne pas aller plus loin dans le détail, parce que bon, on explique tout ça dans notre site web, donc il y a des communiqués qui ont expliqué tout ça. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a eu des gens, des journalistes ou des gens qui ont essayé d'instrumentaliser cet événement. Et si vous vous rappelez bien, à ce moment-là, il y avait toute une vague similaire pour d'autres. À chaque fois qu'il y avait un petit quelque chose, on essayait de s'accrocher. Sauf que dans notre cas, malheureusement pour eux, heureusement pour nous, en tout cas, c'était pas un accommodement raisonnable. C'était une entente commerciale qu'on avait fait avec le propriétaire. Et d'ailleurs, même un des commissaires de la commission des accommodements raisonnables, notamment Dr. Gérard Bouchard, il est intervenu lui-même sur les ondes radio. Il a dit clairement qu'Astrolabe avait totalement raison ce qu'ils avaient fait à la cabane à sucre. Et ils n'ont rien à se reprocher. Donc ça fait, pour moi, c'est l'épilogue de... Maintenant, concernant le lien avec les accommodements raisonnables, nous, justement, on a été... par la suite, il est clair que on a été touché par ça. Ça nous a bouleversé, c'est normal. Bon, nous qui travaillons pour l'intégration positive de la communauté et des membres de la communauté musulmane, se retrouver dans une telle situation, effectivement, c'était choquant pour nous. Mais bon, on a été malgré tout par la suite, on a essayé d'être très positif. On essaye de participer justement avec cette commission des accommodements raisonnables pour donner notre point de vue, pour exprimer un point de vue de une voix musulmane qui comprend le malaise identitaire que vit le Québec, mais justement apporte son point de vue. On peut revenir là-dessus, je suis sûr, par la suite. Peut-être juste un mot par rapport à la commission. Enfin, je veux dire, bon, vous avez dit tout à l'heure qu'elle va charrer, peut-être espère, à mon avis à tort, que la commission va régler les problèmes des accommodements raisonnables. Je pense que c'est un problème qui va au-delà de la commission. C'est sûr que la commission va nous permettre d'avoir, enfin peut-être qu'elle va donner des recommandations très intéressantes. Moi, je suis très confiant. Je fais confiance à la commission et notamment aux deux commissaires. Mais bon, je pense que ça va nous donner des outils, des moyens pour comment on va peut-être régler ce genre de problème dans le futur. Mais bon, c'est sûr que les accommodements, c'est quelque chose qui est continu, permanent. Donc voilà, donc par la suite on verra comment, s'il y a un dialogue ouvert entre les minorités, que ce soit religieuses, ethniques ou la majorité d'ascendance française, c'est sûr que c'est ce dialogue là avec l'ouverture, avec l'écoute qui va régler les vrais problèmes des accommodements raisonnables.
Docteur Nassima Mehia, votre appréciation par rapport à ma première question, donc concernant la tempête qui a commencé depuis presque une année et tout ce qui a été mis en place, soit par la Commission, soit aussi par le gouvernement québécois.
Bonsoir tout le monde, salam alaikum. À mon avis, tout ce qui s'est passé depuis une année presque, son point de départ, c'était surtout les médias et certains politiciens, malheureusement, certains médias et certains politiciens. C'est ça qui a alimenté une certaine peur au niveau de la société québécoise. Et c'est ça qui a fait justement réveiller cette peur. Quelque part, c'est une peur qui est légitime, puisque compte tenu du contexte justement historique du Québec par rapport à tout ce qu'ils ont, tout ce que les Québécois d'ascendance française ont subi par rapport
leur histoire, c'est ça?
Oui, c'est par rapport à leur histoire, justement. Donc, ce qui fait qu'on dit, l'association Astrolabe, elle dit que ce malaise, on le comprend, c'est légitime. Mais en même temps, il faut faire attention à son instrumentalisation par rapport aux médias et par rapport aux politiciens. Et on attend quelque chose de positif par rapport à ce que va faire, par rapport aux décisions de la commission concernant les accommodements. Il y aura certainement des recommandations qui vont aider les juristes à pouvoir faire leur travail convenablement par rapport aux accommodements. Et en même temps, c'est ça. Donc
moi je prendrais une pause musicale, mais avant de prendre la pause musicale, je voudrais vous faire écouter quelque chose Et moi, fraîchement débarqué, parce que je suis quand même un nouveau immigrant, comme la majorité, je pense, de notre communauté, j'ai appris au Québec, je me souviens, et je me permets de dire ce soir que moi aussi je me souviens, donc on va écouter ça, et je demanderai votre réaction.
On pense que ça commence à faire là. On pense qu'on a série de nous autres là. Pis pour ceux qui ne seraient pas contents, crissez-moi votre camp. On veut bien accepter des ethnies, mais non pas à n'importe quel prix. Si tu veux te joindre à notre beau pays, tu devras faire certains compromis. Lorsqu'accueilli dans une place, il faut se fondre à la masse. Parce qu'on peut dire qu'ici que tu es bien, plus que d'où tu viens. On peut maintenant porter le kirpan, parce que nous autres on est tolérants. Changer les règles du YTA, puis un coup parti du CLSC. Nous sommes nous fracturer la raison, pour les caprices de chaque religion. Vos accommodements raisonnables, on n'est plus capable. Y'a des mythes à se faire chier dessus par une minorité de trous de cul. Si tu n'es pas content de ton sort, un endroit qu'est l'aéroport. Toi, ma minorité ethnique, arrête un peu ta musique. Sinon, dans ce cas-là, tu devras retourner chez toi. Retourner chez toi.
C'était un fonctionnaire de l'État qui devait assurer la sécurité de tout le monde, avec bien sûr une possibilité d'avoir une interaction avec les communautés culturelles, qui avaient chanté ça. Tout le monde était choqué en ce temps-là, mais ce qui est un petit peu plus choquant, qu'on oublie, et ce qui est aussi intéressant, c'est que des choses comme ça ont été dites pendant la commission, et les gens étaient choqués en oubliant que ça a été déjà dit par quelqu'un qui, normalement, par rapport à son rôle de policier, devait assurer quand même une neutralité par rapport à ces questions-là. Je vous demanderai une réaction. Ça fait très longtemps que la chanson est sortie, peut-être vous l'avez oubliée, mais est-ce que, après avoir vu les forums au niveau régional et au niveau aussi à Montréal, et bien sûr les forums nationaux qui vont commencer bientôt, est-ce qu'il n'y a pas un dérapage? Parce que moi, je dirais, il y a 2 ans, c'était inacceptable que quelqu'un puisse avoir ce discours, un discours pareil au Québec. Aziz?
Moi, je dirais que heureusement, on a pu, par la mise en place de cette commission, dévoiler l'existence de ce type de pensée ou de discours ou de sentiment à l'intérieur de notre société québécoise. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des sentiments qui existent aujourd'hui, compte tenu d'un certain contexte, compte tenu d'une certaine instrumentalisation d'une problématique de l'accommodement, on a pu les entendre, ils s'expriment de façon un peu plus crue que peut-être d'habitude, mais ce sont des sentiments qui existent. D'abord, moi je suis content parce qu'on voit aujourd'hui que ce sont des sentiments qui sont minoritaires, ce n'est pas tous les Québécois. Heureusement, la majorité des prises de parole vont à l'encontre de ce type, dénoncent ce type de discours, même s'il y en a certains. Moi, je me souviens avoir lu un éditorialiste d'un journal important qui disait que finalement ce fonctionnaire avait le droit de s'exprimer tel qu'il s'exprime, parce que au fond, c'est un policier qui a écrit cette poésie entre parenthèses ou entre guillemets. Je suis d'abord content qu'on sache aujourd'hui que ça existe. Et que c'est une réalité minoritaire, ce n'est pas la majorité des Québécois qui pensent comme ça. Et puis heureusement qu'on les a entendus, parce que à mon avis c'est ça qui a produit un certain ressac, ça a poussé à une prise de conscience chez, au moins au niveau d'une certaine élite ou intelligence médiatique et politique. Les politiciens, je dirais que je ne sais pas si on peut dire que cette prise de conscience existe au niveau des politiciens, parce qu'ils n'ont pas encore pris la parole de façon clair contre ce type de discours, mais au moins au niveau médiatique, beaucoup de personnes dénoncent ce discours. Et en même temps, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça permet aux communautés immigrantes où nous vous arrivons, et notamment aux communautés musulmanes, de se prononcer eux-mêmes, de faire la réflexion, de se prononcer sur leur appartenance à la société québécoise.
Frédéric Castel.
Ben, je suis un peu d'accord avec ça. Je dirais deux choses. La première des choses sur l'individu qui a commis cette chanson, c'est vrai qu'il a le droit de s'exprimer comme toute personne, y compris les idées les plus dingues. La liberté d'expression, c'est ça. Le problème, c'est qu'il a un devoir de réserve parce que c'est un policier. Je le vois pas travailler à par extension personnellement. Je trouve là que j'espère qu'il est remis à sa place au moment où on se parle. Cela étant dit, la bonne nouvelle, et je fais un lien avec ce que dit M. Aziz, c'est que les journaux se sont émus de la chanson et l'ont condamné. C'est déjà en soi une bonne nouvelle que c'était une condamnation unanime, première des choses. Et si on fait un lien avec la commission Bouchard-Taylor, il y avait effectivement un risque qu'on entende des choses de la sorte et heureusement il n'y a pas eu d'aussi folle. Des craintes exagérées, exacerbées, mais pas des idées aussi folles, disons-le. Et ce qui est bien, c'est que dès le départ, les commissaires ont remis à leur place les gens qui disaient des choses inacceptables. Dans certains cas, quand le propos était franchement xénophobe, on leur a dit « Sur quoi vous basez-vous pour émettre telle idée ?» Soit qu'ils déboulonnaient l'idée, soit qu'ils disaient aux gens « On n'accepte pas ce genre de propos-là. » Et dès le départ, ça enrayer ce type de tendance possible. Je trouve que c'est à mettre au compte des commissaires qui ont eu un ton très respectueux envers les musulmans. Et ça paraît. Et moi aussi, je crois que ce qu'ils font est de bonne augure.
Akram.
Oui, moi je dirais que par rapport à, je veux pas revenir sur ce qui est, c'est la chanson elle-même parce que bon, je crois que
l'accord, un exemple.
Tout à fait. Mais c'est pour ça que je dirais bon, la corporation, c'est a pris en charge cet événement et ça peut être un policier, ça peut être une autre personne. Je crois que ça c'est. Maintenant, effectivement, faire le lien avec le reste justement des forums de la commission, c'est là où ça devient plus intéressant. Et moi, je dirais que personnellement, autant que ça se passe maintenant plutôt que plus tard, je dirais autant régler ce genre de problème tout de suite avant que ça devienne un volcan. Ça, c'est mon point de vue et le premier. Ensuite, écoutez, rappelons-nous, bon, c'est sûr qu'il y a eu des événements en 2001, il y a eu par la suite, c'est clair que les minorités sont beaucoup plus visibles actuellement ou maintenant à Québec, notamment à Montréal, par le fait de l'immigration. Et les Québécois, enfin je dirais les Québécois, nos concitoyens d'ascendance française, c'est sûr que bon, à un moment donné, ils se posent des questions, où est-ce qu'on va, et ça c'est pas unique. Hein, je veux dire, c'est pas unique au Québec. Hein, je veux dire, partout dans le monde occidental, les pays commencent à se poser des questions sur leur identité. Et ça, bon, ça, il y a des raisons pour ça. Je veux dire, il y a rien qu'à se rappeler ou voir l'hégémonie culturelle américaine, comment elle déferle partout dans le monde. Je veux dire, c'est clair qu'à un moment donné, tout le monde se pose des questions. Notamment, rappelons-nous, je veux dire, même la France, qui est un pays, je veux dire, très, 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 comme diraient certains, le vieux pays, mais justement eux-mêmes ils ont créé tout un ministère pour l'identité, donc c'est pas quelque chose d'unique au Québec. Ceci dit, à un moment donné, moi personnellement, j'ai regardé, surtout après le sondage, vous avez fait mention tout à l'heure au sondage, c'est possible qu'à un moment donné, même plusieurs membres de la communauté se disaient que, oh, attention, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est toute nos concitoyens d'ascendance française sont comme ça racistes et contre nous et ils nous voient de cette façon-là? D'autant plus que ça a été bien instrumentalisé par les médias, et certains politiciens, pour ne pas les nommer, Donc effectivement, à un moment donné, on se retrouvait plus. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Donc ce genre de forum des accommodements raisonnables, je pense que ça nous a donné une bonne cartographie assez claire maintenant. On voit que bon, finalement, ce n'est qu'une minorité qui voulait vider ce qu'ils avaient. Mais tant mieux. Moi, je dirais que même les commissaires, ils ont bien fait. Certains diraient que bon, ils auraient dû être fermes et empêcher ce genre de déclarations xénophobes, islamophobes en public. Moi, je dirais, bon, ils ont encadré ça, ils ont permis les gens de s'exprimer, et ça nous a permis effectivement de voir qu'il y a une certaine minorité. Ça a permis aussi à une certaine majorité silencieuse de justement prendre la parole et dire non, on est contre ça. Et ça, c'est très important pour le débat.
Je prendrai une petite pause publicitaire et je vous reviens à une, il y a une question qui a surgi par rapport à votre réaction, parce que tout le monde a parlé de crise identitaire au Québec. Je me pose la question, est-ce que réellement c'est une crise identitaire? Parce que je considère aussi ça, c'est comme une, rendre aussi les Québécois comme des boucs émissaires de la problématique. Et je ne suis pas sûr que ça soit juste une question de crise identitaire. Donc on va prendre une petite pause publicitaire et on va revenir avec nos invités.
Tu es au courant du nouveau programme de fidélité Safar Flyer Tawassul de Royal Air Maroc?
Mais comment? Rassembler les miles de toute la famille dans un même compte?
C'est une première! Tu peux le dire, j'apprécie de plus en plus de voyager avec Royal Air Maroc. Dès notre adhésion à Tawassul, j'ai obtenu rapidement mon billet d'avion gratuit.
Avec Safar Flyer Tawassul, le nouveau programme de fidélité de Royal Air Maroc, que vous preniez l'avion ensemble ou séparément, vous cumulez les miles sur un compte commun à toute la famille et accédez plus rapidement au billet d'avion gratuit. Alors n'hésitez pas, adhérez à Safar Flyer Tawassul et profitez de cet avantage exceptionnel.
Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb sur les ondes de Radio Centre-Ville. Ce soir, donc, on parle d'accommodement raisonnable, on parle de commission Bouchard-Taylor. Je reçois Monsieur Frédéric Castel, qui est religiologue à l'UQAM, Abdelaziz Jaoud, doctorant en sociologie, ainsi que de représentants de Astrolab, l'association, donc, une des associations de la communauté musulmane, donc, représentée par Dr Akram Ben Alia et Dr Nassima Mehia. Je vous rappelle, bien sûr, que nos lignes sont ouvertes maintenant au 514-495-2597. Et avant de revenir à nos invités, tout à l'heure on a écouté une chanson qui parlait de la question des accommodements. On va écouter notre chanson, peut-être une façon de répondre très à droite, d'un chanteur que j'aime beaucoup. Mais avant d'aller en musique, je pense que il y a une petite annonce ici. Il y a, à l'occasion de l'Aïd al-Adha, il y a Cheb Yazid et Naïma Babsa qui vont être en spectacle le 21 décembre prochain au restaurant Le Mizaïk. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez consulter le site algeroweb.com. Donc on y va en musique et on revient avec nos invités. Bien sûr, comme je l'avais déjà mentionné, les lignes téléphoniques sont ouvertes. Vous pouvez nous contacter au 514-495-2597. On va en musique.
Mais on aime ma compagnie. À tout instant, mon cœur s'attache. Mon cœur joue cache-cache. Même quand je n'ai pas un dollar, je chante et j'oublie mon cafard. On m'a surnommé l'Oriental, car moi je suis sentimental.
C'était Enrico Macias avec la chanson Moins l'Oriental. Je reviens avec mes invités et la question qui me vient à l'esprit en vous écoutant parler de la situation par rapport à la crise identitaire au Québec, est-ce que vous ne pensez pas qu'on essaye un petit peu d'être trop politiquement correct par rapport à la question en disant qu'au fond c'est juste une question de crise identitaire? Les questions qui me viennent à l'esprit, est-ce qu'il n'y a pas vraiment un problème d'accommodement au Québec? On oublie un petit peu la crise identitaire parce que même si elle existe, je pense que c'est un fait naturel. Toutes les identités des peuples évoluent avec le temps, mais ce n'est pas une raison pour vivre l'année 2007 au Québec comme on l'a vécu. Je ne pense pas que cette crise identitaire est survenue à l'automne 2006 pour que il y ait quand même un changement radical par rapport à la perception du Québec à l'étranger, parce que de plus en plus, il y a beaucoup de forums au niveau international qui se questionnent sur l'ouverture du Québec, malgré qu'en réalité, au Québec, dans les rues, les gens vivent normalement, on n'a pas de voitures qui se brûlent dans les banlieues des grandes villes québécoises, mais il y a quand même des problèmes qui ont été médiatisés. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une question d'accommodement? Est-ce que le modèle interculturel québécois ne trouve pas sa limite entre le modèle d'assimilation français qui essaye quand même donc de forcer l'intégration par l'assimilation versus un modèle multiculturel anglo-saxon qui, lui, crée quand même des ghettos pour les uns ou des libertés d'expression pour les autres? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est quand même en face d'un problème réel? Et dans le cas de la communauté musulmane, il serait essentiellement donc aux représentants d'Astrolabe de répondre à cette question. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème pour la communauté musulmane de s'intégrer, lié essentiellement à la question de la relation de la religion, de l'importance de la religion par rapport au pays d'origine? Donc je commencerai par Aziz et on reviendra aux autres invités.
Moi, je dirais à la question, est-ce qu'il y a une crise identitaire au Québec? C'est que, comme dans toute chose, par rapport à la question des accommodements raisonnables, comme dans toute chose, il y a des raisons directes et des raisons un peu plus profondes. Si on fait une analyse disons, on prend la dernière année, 2007 ou même 2006-2007, on peut parler du facteur médiatique qui a joué un rôle très important pour faire émerger ce qu'on considère comme étant le problème des accommodements. C'est certain, il y a un certain nombre de journalistes qui ont voulu faire de la question des accommodements un problème national. Ça, c'est certain. Mais ça, c'est quand on décide de faire une analyse de premier niveau. Maintenant, la question qui se pose et qui va faire, à mon avis, laisser comprendre pourquoi on peut parler d'une crise identitaire ou au moins d'un malaise identitaire, pas d'une crise identitaire, mais d'un malaise identitaire au niveau de la société québécoise, c'est que on devrait se poser la question, qu'est-ce qui a fait que, par exemple, quelqu'un comme Mario Dumont, donc la DQ, puisse faire peur aux Québécois au point où d'un 12% d'appui populaire, elle devient l'opposition officielle. Moi, je crois qu'il y a un sentiment de vulnérabilité compte tenu du statut de minorité linguistique francophone de la population québécoise en Amérique du Nord. C'est un sentiment de vulnérabilité que certains élites journalistiques ou politiques ont voulu instrumentaliser à l'encontre de la question des accommodements raisonnables. Mais le fait qu'ils puissent réussir à faire cette instrumentalisation prouve qu'il y a un sentiment de vulnérabilité, une peur, une volonté de perpétuer la culture francophone. Et ce sentiment d'être menacé, on peut le considérer comme étant un malaise identitaire. C'est dans ce sens-là où...
Monsieur Frédéric Castel?
Ben, j'avoue que je ne peux pas être totalement convaincu par l'hypothèse identitaire. C'est sûr, ça semble dans l'air du temps, mais je vous fais remarquer que partout en Europe, là où on a, en guillemets, un problème avec des musulmans ou des minorités religieuses, la France, l'Allemagne, l'Italie, c'est pas des pays qui ont des grands problèmes identitaires. C'est une idée, je crois que ça aussi, c'est une idée reçue. C'est souvent l'idée que projettent sur notre société les anglo-canadiens qui ramènent tout à la question de la langue.
Et ça, c'est important que vous le mentionniez, parce que c'est comme si on essaye d'attaquer le Québec en créant cette forme d'identité de crise identitaire, et c'est venu surtout du Canada anglais.
Vous avez tout à fait raison. La lecture du Canada anglais est elle-même, je vous dirais, assez caricaturale. Si on se souvient bien, les premiers cas d'accommodement raisonnable, les choquants et les faux, à l'époque, il n'y avait aucun lien fait avec l'identité. C'était juste des cas qui choquaient les gens. Les gens en avaient assez. Et je crois qu'ils étaient choqués autant vis-à-vis des gens qui étaient en cause. Je parle pas du tout du cas de Cabanasuc, mais des autres cas comme les fenêtres givrées et compagnie. Mais ils étaient aussi en colère contre le gouvernement qui ne disait rien, qui ne répondait à rien, qui ne définissait pas ce que c'est que la laïcité, qui ne définissait pas ce que c'est l'accommodement. Et les gens étaient choqués de semaine en semaine. C'était une colère populaire vis-à-vis d'événements qui ont été mis en épingle, certes, mais je crois pas que ça relève vraiment d'identité. Je voudrais apporter un élément supplémentaire sur la question identitaire. C'est une idée reçue, donc, qu'on ramène ça à l'idée de la langue. Il y a une chose qu'il faut savoir, il faut que les immigrants aussi sachent ça. La société québécoise, en dehors de la question de la langue, est différente du reste du Canada anglais et même de l'Amérique du Nord par le fait que c'est une ancienne société qui était à 85% catholique. Alors la différence, c'est que les anglophones sont habitués, protestants, sont habitués de côtoyer mon oncle qui est méthodiste, mon grand-père qui est anglican, tous les amis appartiennent à des églises différentes. Il y a un grand relativisme religieux qui naît de ça. Les gens qui ont 50 ans et plus n'ont rien connu d'autre que le catholicisme. Alors là, c'est sûr que c'est une surprise, les nouvelles les religions qui arrivent. Donc j'aimerais amener la dimension vraiment religieuse au-delà de la question de la langue.
La question, donc, au porte-parole d'Astrolab, c'est la question de la communauté musulmane. Est-ce que vous ne pensez pas, je pense que M. Frédéric Cassel a parlé de la problématique qui est au niveau international, qui est aussi liée à des événements politiques, la question du Moyen-Orient, le 11 septembre. Mais objectivement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi un problème d'intégration qui peut être spécifique à la communauté musulmane ou aux communautés qui viennent de pays où la religion joue un rôle assez important par rapport à ce qui se passe en Occident?
Bon, moi, je pense que, pour revenir à la question du malaise identitaire, je crois qu'il y a peut-être deux points qu'il faut pas négliger ici. Et Astrolabe, notamment, avant de pendre ou d'écrire ce mémoire, nous sommes passés par un exercice assez imposant où nous avons réuni des gens de la communauté, justement, et même au-delà de la communauté, déjà des personnalités très connues dans le domaine dans ce genre de domaine, des gens connus, et on s'est posé ce genre de questions et notamment, est-ce qu'effectivement il y a un malaise identitaire, est-ce qu'il y a un problème, est-ce que juste les gens ont essayé de l'instrumentaliser, est-ce que des gens qui on a cité Mario Dumont qui appelle pour un nationalisme ethnique plutôt qu'un nationalisme civique, on s'est posé beaucoup de questions, mais moi je dirais que à la fin, il est vrai que c'est vrai qu'il faut pas dramatiser, mais il faut pas non plus banaliser un problème qui existe au Québec, notamment la spécificité du Québec par rapport à la marée ou à l'océan anglophone qu'il y a autour. Donc il y a quelque chose qui existe. Maintenant, est-ce que c'est là la cause ou non? Nous, on a préféré plutôt étudier ça. Vous savez, quand on est face à ce genre de situation, vous avez en face de vous des gens qui vous citent des problèmes, qui vous citent des arguments. Vous avez le choix de les ignorer, c'est ce que nous ne faisons pas à Astrolabe, ou bien de les prendre et d'essayer, là où, de façon honnête et cohérente, les déconstruire pour leur montrer que non, c'est pas vrai, c'est pas ça qui pourrait créer un même fossé ou un malaise entre les minorités et la majorité d'ascendance française. Et donc, c'est ce que nous avons fait, et notamment pour le malaise identitaire, nous reconnaissons, nous voyons qu'effectivement, on l'a même décrit, le malaise tel que nous le voyons, nous. Mais on dit en même temps qu'il faut pas l'instrumentaliser, il faut pas pour autant. Je reviens également. J'avais dit deux points. Le deuxième point, c'est aussi, n'oublions pas que la commission, avant qu'elle soit instaurée, le mandat qui lui a été donné, Jean Charest lui-même, parlait de certains points. Il parlait de l'identité. Bon, ça se disait avant, dans cette période-là. Mais lui-même, il a insisté sur ça. Il a parlé de l'identité comme si c'était il y avait un problème. Il fallait le régler. Il fallait le regarder de façon plus claire. Il y avait aussi les valeurs. La laïcité, l'égalité femmes-hommes. Donc tout ça, il fallait que nous, Astrolabe, l'étudions et répondons à tous ces problèmes ou à tous ces points-là de façon très cohérente, très honnête et dire quel est notre point de vue. Maintenant, pour la communauté musulmane, pour votre question, pour la communauté musulmane et son intégration, moi je ne pense pas du tout qu'il pourrait... La communauté musulmane a déjà ses propres problèmes. C'est sûr que bon, c'est une communauté jeune, elle est en train de régler petit à petit ses problèmes, elle est en train de même essayer, c'est ce qui est vraiment excellent, de voir l'islam, notre islamité, notre façon de vivre par rapport au contexte dans lequel on est en train de vivre actuellement au Québec. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est un effort énorme. Sauf que effectivement, ce genre de problème d'accommodement raisonnable ou l'instrumentalisation qu'il y a autour, il est clair que ça nous fait retarder, ça nous fait que créer des obstacles et je déplore ça, je déplore. Maintenant, pour globalement la communauté, est-ce que avec ça, elle s'intègre ou elle s'intègre pas. Je crois que si on regarde bien par rapport aux autres minorités ou par rapport à ce que même des vécus dans d'autres pays, écoutez, bon, c'est clair, rien que voir les statistiques dont il avait parlé Frédéric Castel dans d'autres occasions, il n'y a pas de ghetto de musulmans et ça je crois que c'est très important. Il n'y a pas de ghetto, ça c'est déjà un point très très important, ça veut dire que nous nous intégrons, nous n'avons pas un a priori pour dire que bon, nous on veut être isolés et donc il y a déjà une volonté de la communauté musulmane pour s'intégrer.
Donc, je ne sais pas si par rapport, parce que c'est un point important, dans le sens où oui, c'est la communauté musulmane, dans sa très grande majorité, s'intègre bien, que ce soit sur le marché du travail, que ce soit dans sa vie quotidienne. Mais je voulais juste, parce que la question de l'ami, c'est que effectivement, les musulmans, compte tenu qu'ils sont des nouveaux arrivants, ils viennent de sociétés où le rapport aux religieux est différent de ce que le Québécois moyen a comme rapport à sa propre religion. La question qui se pose, c'est est-ce que ce rapport pose problème? Moi, ma propre réponse que je dirais, c'est que ce qui est important pour la société québécoise de façon générale, c'est qu'elle arrive à comprendre ce rapport au religieux qui est effectivement différent à travers l'univers de sens musulman pour voir jusqu'à quel point il remet en cause les acquis de la société québécoise. Parce que c'est certain, on ne peut pas nier que le musulman aujourd'hui, compte tenu de sa propre histoire, de la dynamique historique dans les pays musulmans, il n'a pas le même rapport religieux. La question religieuse reste centrale pour lui. D'abord, c'est des gens que, pour la grande majorité, c'est des croyants, que ce soit des croyants pratiquants ou pas, mais ils restent croyants. Donc, c'est un rapport différent. La question qui se pose, c'est est-ce que ce rapport remet en cause ou menace les acquis de la société québécoise? Moi, personnellement, je ne le pense pas, même s'il peut y avoir certaines pratiques qui dérangent, mais c'est plus sur le plan symbolique qu'autre chose.
Je prendrai un appel. Je rappelle notre numéro de téléphone. C'est le 514-495-2597. Et je prendrai donc le premier appel à Louis Ramdan.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, vous êtes sur les ondes. Hein?
Oui, bonsoir à tous. Je voudrais juste réagir un peu et répondre un peu à la question que l'ami avait posée. La manière dont je l'ai compris, c'est en fait, l'un n'empêche pas l'autre. La crise ou le malaise identitaire ici au Québec n'est pas en opposition. C'est pas quelque chose qui pourrait empêcher effectivement que la communauté musulmane puisse s'intégrer ou pas. Je pense que ce malaise-là existe un peu comme pour reprendre ce qu'on dit la majorité, je pense, de vous inviter. Il ne faut pas se le cacher, mais quand on parle de malaise identitaire, on ne parle pas spécialement d'une société qui se cherche à chercher son identité, qui je suis. C'est pas la grande question, qui je suis. Je pense que c'est pas là qu'il faudrait voir. C'est plus une crainte que cette identité s'efface, que cette identité s'effrite au fur et à mesure des années. Je pense que l'histoire du Québec a été un peu a un rapport avec l'immigration. Le Québec spécialement, je ne parle pas du Canada en entier, mais le Québec spécialement a un rapport avec l'immigration dans son histoire un peu plus difficile. Je pense un peu à l'histoire où les Québécois ont essayé d'être un peu noyés dans cette nouvelle immigration, dans l'immigration qui arrive, ce qui fait que, pour reprendre un peu ce que disait M. Castel, l'ancienne génération des 50 ans et plus ont ce rapport avec l'immigration qui est un peu plus délicate, un peu plus sensible. Ce qui fait que, et puis, à moins que je me trompe, mais j'avais l'impression que la majorité des réactions qui étaient un peu brutales, un peu plus difficiles au niveau de la commission et ainsi de suite, étaient plus de personnes qui étaient un peu plus âgées et qui ont ce rapport justement un peu plus difficile avec l'immigration. Mais l'un n'empêche pas l'autre, effectivement, que la communauté musulmane, oui, en règle générale, elle s'intègre convenablement, mais un peu comme toutes les autres communautés, a des difficultés peut-être à s'intégrer. C'est un peu juste ça que je voulais ajouter, que ce malaise-là, je pense qu'il est réel, qu'il existe, et que bon, il faudrait peut-être en tenir compte et pour pouvoir, vivre ensemble tous comme on est. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Merci beaucoup, Ramadan, pour votre appel, et je rappelle le numéro de téléphone qui est le 514-495-2597.
Mais pour ce qui est de la question des générations, je suis bien d'accord avec ce qu'a dit notre auditeur, parce que en plus d'être scientifique, j'enseigne, et un des sujets pour lesquels je suis le plus sollicité, c'est la communauté musulmane québécoise. Alors, j'ai donné un cours cette année, il y avait un groupe de personnes de 50 ans et plus, les retraités, et je peux vous dire que les questions étaient de l'ordre de la crainte, des craintes légitimes quand même, pour ce bassin de personnes, donc c'était beaucoup plus chaud comme discussion, et beaucoup aussi d'acrimonie. J'enseigne actuellement une classe de gens en majorité dans la vingtaine à l'université, et leur vision du monde musulman est tout à fait différente. Donc l'aspect générationnel de ce qu'a dit monsieur est tout à fait juste, je trouve.
Je prendrai une petite pause publicitaire et je reviendrai avec une question, ce qui serait plus au niveau des pistes de solutions. Ça donnera l'occasion donc au représentant national de parler du mémoire, puisque le mémoire est censé donc présenter une conception de la question des accommodements au Québec pour résoudre ce problème, si problème il y en a. Et aussi, j'aimerais bien avoir l'avis de Aziz et de Frédéric sur la question des pistes de solutions. Que le problème soit une question de crise identitaire ou des communautés culturelles, d'après vous, ce serait quoi la solution? Bien sûr, on va écouter. Écoutez tout ça après cette pause publicitaire.
سمعتي برنامج الوفاء الجديد سفر فلاير تواصل للخطوط الملكيه المغربيه
طبعا انبياء الاسره كلها في حساب واحد مشترك هذا رائع
مع تواصل متعه السفر مع الخطوط الملكيه المغربيه تزادها متعه اخرى غير اشتركنا في تواصل فزنا بسرعه بتذكره سفر مجانيه
مع سفر فلاير تواصل برنامج الوفاء الجديد للخطوط الملكيه المغربيه سواء سافرتم معنا او على انفراد تجمعون الاميال في حساب مشترك للاسره وتفوزون بسرعه اكبر بتذاكر طائرة مجانية لا تتأخروا انخرطوا في سفر فلاير تواصل واستفيدوا من هذا الامتياز الرائع الخطوط الملكية المغربية أجنحة المغرب.
Donc retour à l'émission Taxi Maghreb. Ce soir, on parle d'accommodement raisonnable, on parle de la commission Taylor et Bouchard avec nos invités qui sont donc Monsieur Frédéric Castel qui est religiologue à l'UQAM et aussi Abdelaziz Djaoud qui est aussi doctorant en sociologie à l'UQAM. D'autre part, on reçoit Dr Nassima Mehia qui est membre de porte-parole de l'association Astrolab ainsi que Dr Akram Ben Alia qui est responsable de la communication et des relations extérieures. Je rappelle que en termes d'annonce communautaire, le 21 décembre prochain, il y aura Rachab Yazid et Naïma Babsa qui seront au restaurant de Mosaïque. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet algeroua.com. Avant de revenir à nos invités, on va vous faire passer une chanson de Yazid et on va revenir avec nos invités et le sujet de la question des accommodements raisonnables.
خرجت لعيب تاع قلب وهدخل لك غير انا اليوم مليون سوى مليون والو سوى والو يا لوها عيش تشوف باي باي يا بصامي باي باي يا لطامي شوفت الهدوم باي باي يا بصامي باي باي يا لطامي شوفت الهدوم سافت وراح الشال اللي جاي يقول انا فلان ويبغوا يولوا شيفان واحد مولا عفيرة الاخر داخلها رشمت ويقول لك تلز تعيش سافت وراح الشال اللي جاي يقول انا فلان ويبغوا يولوا شيفان واحد مولا عفيرة الاخر داخلها رشمت ويقول لك تلز تعيش باي باي يا مسامي باي باي يا
On rappelle que Yazid sera en spectacle le 21 décembre prochain en compagnie de Naïma Ababsa, donc qui vont animer une soirée à l'occasion de Eid el-Kbir el-Moubarak. On revient à notre sujet et la question des accommodements. Et la question que j'avais posée à nos invités, à mes invités, c'est les pistes de solutions. Donc je vais commencer avec Frédéric Castel, ou plutôt, non, avec les représentants d'Astrolabe qui vont nous parler du mémoire et de leur conception donc de la question des accommodements au Québec. Docteur Nassima.
Astrolabe avait fait des propositions pour la commission à travers son mémoire.
Je rappelle que le mémoire sera présenté la semaine prochaine.
Le vendredi matin, je crois que c'est à 8h45.
Le 14.
C'est le dernier jour. Hein.
Je crois que c'est le dernier jour des audiences nationales et toutes les audiences. Oui.
Donc mémoire, il sera présenté. Il n'est pas encore public. Il va être publié après.
Si, il est public depuis plusieurs jours sur notre site web astrolabequebec.org. Effectivement, les gens peuvent le télécharger, le regarder. C'est un PDF.
Donc désolé, je vous ai coupé juste pour mettre le contexte par rapport à la question de votre présentation du mémoire au niveau de la commission.
Donc Astrolabe a souligné un point très important au niveau de son mémoire, c'est la responsabilité des politiciens vis-à-vis de tout ce malaise. Elle appelle justement les politiciens à prendre leurs responsabilités, à faire un effort pour sensibiliser la population à avoir cette acceptation de l'immigrant. Donc c'est très important pour la société québécoise d'accepter les immigrants. Donc ça c'est un point et aussi c'est très important pour
C'est ça, oui. Absolument. C'est aussi pour ouvrir un dialogue, parce que le dialogue, c'est très important. Sinon, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on ne peut pas régler tout par le biais d'une commission, mais c'est surtout d'ouvrir un dialogue permanent, serein, en respectant les minorités, respectant l'autre, et c'est comme ça qu'on pourrait aboutir. Ceci dit, pour juste rappeler quelques recommandations ou quelques points qui avaient été avancés par Astrolabe, c'est que nous, on part d'un principe très simple mais important, qui est le droit d'exister et le devoir de coexister. Et ça, c'est réciproque, c'est-à-dire que ce soit pour les minorités, que ce soit pour la majorité d'ascendance française, chacun a le droit, chaque minorité, chaque parti a le droit d'exister, de vivre sa spécificité, et en même temps, on a le droit de coexister dans le sens où on doit le faire dans le respect de l'autre. On doit garder le dialogue et le lien avec l'autre.
Mais d'une façon pratique, est-ce que sur la question de la laïcité dans l'espace public, on sait très bien qu'aujourd'hui il y a plusieurs conceptions de la laïcité qui sont mises sur la place et ces conceptions ont un impact direct sur la vie de tous les jours. On sait très bien que parmi les membres des communautés religieuses qui peuvent être impactés d'une façon directe, donc la communauté musulmane sur plusieurs questions. Est-ce que vous avez des propositions où vous comptez dire des choses au niveau de la commission pour prendre une position claire sur la question du voile, par exemple?
Bon, moi, je vous dirais que de façon générale, la laïcité, pour nous, c'est au contraire, on appuie ça parce que, bon, pour nous, c'était un mécanisme très, très, un super bon mécanisme pour gérer la pluralité religieuse. Et c'est clair, notamment nous, en tant que minorité, c'est dans notre intérêt, justement, au-delà de notre adhésion forte à ça, mais que ça soit clair, même pour les autres membres qui nous écoutent de la communauté, que c'est dans notre intérêt, au contraire, d'appuyer ça. Et nous y croyons fortement, justement, à la gestion de la pluralité. Et on est d'accord aussi qu'il y ait une non-ingérence. Et donc, pour nous, c'est une laïcité ouverte. Hein. Il ne faut pas que... et de la non ingérence du politique dans le religieux, dans le sens, je vous donnerai un exemple. À un moment donné, il y avait bon, je ne sais pas si c'est un projet qui reste toujours sur la table ou sur le terrain, par exemple, pour organiser un leadership de la communauté musulmane et que ce leadership-là soit imposé ou vient du gouvernement ou de toute façon du politique. Nous, par exemple...
Ce que la France a fait au fond.
Exactement, et qui ne réussit pas. Donc c'est là où nous, on interpelle les politiciens et on dit il faut respecter justement la laïcité et ce n'est pas aux politiciens de s'ingérer dans la communauté musulmane et d'essayer d'organiser son leadership. Bien au contraire, c'est de donner les moyens ou de laisser la communauté musulmane de s'organiser de elle par elle-même, de se construire et de voir comment elle peut construire un leadership. D'autant plus que la communauté musulmane, il y a une telle pluralité qu'il est difficile d'imposer comme ça un leadership. Vous savez qu'on a plusieurs sensibilités, plusieurs écoles religieuses ou de jurisprudence. Donc sur ce point, il est clair que on veut pas l'ingérence du politicien. Comme on veut pas aussi non plus l'ingérence du religieux. Nous, on n'a aucun intérêt.
Sur la neutralité des fonctionnaires.
Bon, vous revenez à la question du foulard ou du hijab.
Entre autres, mais la
neutralité. C'est ça, absolument, absolument. Nous, bon, d'abord pour le hijab, que ça soit clair pour nous, d'ailleurs c'est ce que nous revendiquons ou ce que nous disons dans notre mémoire, et que justement, par le fait lui-même de l'égalité femme-homme, tel que nous le comprenons, tel que ça a été, c'est ça l'essence ou la naissance de la lutte égalité femme-homme, c'est que de donner à la femme la liberté de choisir, la liberté de choix, c'est de s'affirmer par elle-même et qu'il n'y ait plus de paternalisme, ce qu'on dit à la femme de faire ou de ne pas faire. Donc c'est justement, on dit que c'est justement pour ce principe-là, par le respect à ce principe-là auquel nous adhérons d'ailleurs, que c'est à la femme de choisir de porter ou de ne pas porter le hijab. Ce n'est pas de lui dire que non, si vous le portez, vous êtes aliéné ou vous êtes soumise. Donc ceux qui appellent pour justement la liberté, ou plutôt l'égalité femme-âme, justement qu'ils appuient la liberté de la femme musulmane de porter ou de ne pas porter le foulard. Maintenant, au sein des institutions, vous faites allusion aux institutions de l'État ou à l'enseignement. Moi, je dirais que bon. Il n'y a aucun problème que la femme musulmane porte son foulard et soit enseignante ou travaille dans les institutions de l'État, parce que la neutralité, c'est l'institution elle-même qui doit être neutre. Les personnes sont neutres, c'est vrai, mais l'institution elle-même qui doit être neutre et doit garantir la neutralité. Mais les personnes ne doivent pas cacher leur appartenance ou leur spécificité. S'il est noir, il est noir. S'il est musulman ou juif, soit. Il n'y a aucun problème, pourvu que bien sûr que cette spécificité n'intervient pas dans le rôle de
son acte.
Au fond, c'est la neutralité de l'acte. Je prendrai un appel téléphonique. Belkacem attend depuis tout à l'heure et je vais revenir à vous. Allô, oui, Belkacem.
Oui, salam
alaikum.
Salam,
Belkacem.
Oui,
tu es à la radio.
Ça va?
Oui, ça va maintenant.
Ok, très bien. Oui, bonsoir Lamine, bonsoir à tous tes invités et un coucou à tous les auditeurs et auditrices. Salam alaikum. Je voudrais intervenir, c'est très intéressant parce que c'est vrai, c'est la conclusion de la commission Bouchard-Taylor. C'est que comme les intervenants, les invités dans l'émission de Taxi Maghreb, ils ont évoqué plusieurs réalités et des expériences qu'a subi la communauté. C'est vrai, comme en revenant à la cabane à sucre, c'est un journaliste là qui a voulu créer cette polémique. Et je suis pas d'accord parce que le monsieur il a dit que ça a rajouté de l'huile dans du feu parce que tout le monde en parlait. Et même j'ai eu des clients, on m'a cité, on m'a ressorti ça comme la cabane à sucre, comme l'accouchement d'une femme où le mari a voulu intervenir. De toute façon, c'est des cas isolés. Pour moi, c'est des journalistes qui cherchent les poux dans la tête d'un chauve. Donc, c'est des journalistes, c'est des gens de les médias qui veulent semer la panique, le racisme. Pour moi, c'est des gens néfastes, comme Denis Bombardier, par exemple, qu'on a vu plusieurs fois à la télévision. Et pour le policier, de par extension, c'est que deux ans avant que les on entend des accommodements, les citoyens de ce quartier-là, de Parc Extension, ont posé une plainte contre les policiers du quartier, qu'on croit qu'ils sont racistes contre les communautés ethniques. Et moi, personnellement, j'ai exercé ma profession, j'étais humilié, j'ai appelé 911 tout de suite après l'incident que j'ai eu avec ces policiers-là du quartier-là, et qu'une semaine après, j'ai vu dans le journal une plainte comme quoi qu'il y a une commission d'enquête qui va être établie, et que j'étais à la cour, que j'ai gagné, j'ai gagné la cause. Donc, il y en a des gens qui ne nous découragent pas. Dieu merci que c'est vrai, cette commission, elle est là. Les gens, ils sont exprimés. Il y a des gens qui sont défoulés. Et il y a des gens d'exonophobie qui ont apparu. Et que et aussi pour les politiciens, c'est vrai. Il y a des politiciens qui ont voulu saisir cette occasion-là à des fins partisanes, ni plus ni moins. Donc, Hélène, je te remercie parce que de ta vigilance envers notre communauté. Je t'ai vu à Télé-Québec. Vraiment, je te remercie du fond de mon cœur. Et bonne écoute à tous les auditeurs et auditrices.
Merci beaucoup, Belkacem. La question qui a été posée sur la question, donc, sur les pistes de solution, je pense, Aziz et Frédéric n'ont pas encore réagi sur ça.
Moi, je pense que le point que Dr Mahia a fait sortir dans le sens d'une interpellation du politique, que les politiciens fassent de quoi pour que tous les citoyens du Québec acceptent les réalités nouvelles de leur société, c'est-à-dire une société plurielle, que ce soit les membres de la majorité francophone ou que ce soit les membres des minorités ethniques. On doit tous apprendre à accepter notre de vivre dans une réalité plurielle, et ça, c'est le rôle des politiciens. Il faut qu'ils se prononcent, qu'ils dotent la société d'outils pour faciliter ce vivre ensemble pluriel. Mais je dirais que ça dépend aussi de beaucoup de comment on définit le problème, puisqu'on disait au départ, c'est clair, une partie de la problématique vient de comment les médias traitent ces questions de l'accommodement. Je crois que dans le mémoire d'Astrolabe que j'ai eu la chance un peu d'accompagner Astrolabe dans la rédaction et tout ça, je sais que parmi leurs propositions, c'est qu'il y ait une plus grande présence de la diversité culturelle dans les médias québécois. On s'étonne aujourd'hui, ils sont rares les membres des communautés ethniques et surtout de la communauté musulmane qui sont posés problème. Ils sont rares les journalistes de cette communauté qui sont présents, que ce soit dans les médias audiovisuels ou que ce soit dans les journaux et les quotidiens. Donc, je pense que c'est au niveau politique, au niveau médiatique, mais il y a surtout aussi un travail au niveau des communautés, pour parler un peu de notre communauté, de la communauté musulmane algérienne, de s'impliquer plus dans le débat citoyen, parce que ça fait aussi partie de la solution, parce que jusqu'à un certain point, il est normal que la société aussi questionne certaines pratiques qu'elle ne connaît pas, qui sont un peu présentées de façon péjorative au niveau international, comme le port du voile, la pratique religieuse musulmane qui est questionnée un peu au niveau international. Donc c'est une partie de la solution vient de la communauté elle-même qui doit s'impliquer plus pour expliquer un peu ses pratiques, pour les démystifier.
M. Frédéric Castel.
Ben, ça dépend si on parle de la commission comme telle ou dans des solutions autres, mais il me paraît comme nœud central, c'est que la majorité, je vous dirais, de la société québécoise ne connaît pas sa communauté musulmane. Ça me paraît très évident, c'est le nœud du problème. Et je ne dirais pas jusqu'à dire que les journalistes tiennent absolument à polémiquer là-dessus. Je crois que très sincèrement, les gens ne connaissent pas la communauté musulmane et projettent sur elle des problématiques qui n'appartiennent pas au Québec. Je vous dirais que certains journalistes, faire un petit peu d'humour, connaissent plus les musulmans de France et de Londres. Et s'imaginent que ces mêmes problèmes-là existent ici, c'est pas du tout le même profil sociologique. Il est un petit peu malheureusement compréhensible et normal qu'il ait cette vision-là, mais il faut la briefer, autant la société québécoise que le monde journalistique, de qui est vraiment la communauté musulmane québécoise, qui est probablement la communauté la plus éduquée et la plus instruite du monde occidental. Le drame au Québec, c'est à peu près personne ne le sait. En conséquence, la communauté musulmane, en plus, maîtrise parfaitement bien le français à la hauteur de 75%. Donc, elle s'insère. Les Québécois qui, actuellement, depuis une semaine ou deux, on voit qu'ils s'inquiètent pour la situation du français, c'est un petit peu normal, voyant 150 000 personnes arriver de pays étranges, disent ben, ils ne doivent pas parler français. Ben, faut leur répondre. La question est légitime. Ils leur disent, ben voici, 75% des musulmans parlent français. Et quand on est dans les générations en dessous de 20 ans, c'est au-dessous de 80%. C'est un taux, je dirais, excellent. Donc, elle doit apprendre à appréhender la communauté. La communauté doit aussi répondre. Et ce que fait Astrolabe est excellent à mon point de vue, parce que une des causes qui fait en sorte que la communauté n'est pas suffisamment bien connue et représentée, c'est que la posture journalistique, je trouve un peu normale mais déplorable, c'est qu'on a toujours fait appel à des imams et des hommes de religion, croyant un peu qu'il fallait donner la parole à des porte-paroles entre guillemets. Et là, Astrolabe nous arrive avec un mémoire qui vient de la couche, je vous dirais, intellectuelle de la communauté musulmane, qui est fort intéressante à mon point de vue, qui doit être connue, et voici l'opportunité de faire connaître donc le visage intellectuel de la communauté, qui est, en mon sens, la marque. C'est une des caractéristiques de la communauté musulmane québécoise, c'est sa couche intellectuelle.
Frédéric Castel, vous êtes connu par votre très bonne connaissance de la communauté musulmane, surtout montréalaise, puisque vous avez travaillé au niveau de la maîtrise aussi du doctorat sur ça. Vous êtes connu par votre objectivité sur la question de la communauté musulmane. Si je vous pose une question directe, quels sont les problèmes que pose la communauté musulmane pour leur intégration? Ou quelles sont les choses que la communauté doit faire pour assurer une intégration donc positive au sein de la société québécoise, et surtout que vous êtes bien positionné parce que vous êtes issu de cette communauté, donc du Québec, et que vous connaissez très bien aussi la société québécoise?
Bon, ben, c'est une question à deux volets. Qu'est-ce que la communauté doit faire elle-même? Ben, c'est ce qu'elle est en train de faire maintenant, je vous dirais, c'est prendre la parole. C'est ce que fait Astrolabe en particulier. Quand il y a des polémiques, je pense qu'il faut répondre dans les journaux. Répondre, il y a toute une façon de répondre, non pas par la polémique. Évidemment, je pense peut-être l'erreur. Donc, c'est se faire connaître, mais en même temps, il y a une chose que je devrais ajouter. On ramène trop la question de l'inquiétude des gens vis-à-vis des musulmans en rapport avec la question de l'immigration. Je pense qu'il faudrait davantage mettre l'accent sur les choses qui embêtent les gens, c'est les rapports hommes-femmes. Alors, à tort ou à raison, l'islam passe sur la religion sexiste, où les femmes ne sont pas bien traitées ou à égalité. Et moi, quand je suis en relation dans des cours, dans des communications, c'est le sujet qui revient. C'est pas du tout le reste de l'immigration, ces questions-là. Alors ça, c'est aux musulmans de répondre. Mm-hmm. Et je vous dirais, d'émystifier la question du hijab, qui est, à mon sens, très, très peu connue du grand public.
Bien que je sois plus ou moins d'accord sur l'importance de l'égalité des sexes au Québec, mais est-ce que vous ne pensez pas que ces derniers temps, cette question, avec toute son importance, est présentée comme étant un dogme, quand on sait que c'est une question d'un combat permanent et dynamique, et que ce n'est pas une valeur aussi bien établie dans aucune société au monde, puisque au Québec, on n'a pas encore pu avoir une première ministre femme. Il y a beaucoup de combats nécessaires pour l'établissement de cette égalité dans la réalité des choses. Vous savez que l'équité salariale n'est pas acquise à 100% au Québec. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que cette question, et ça c'est une question que je pose à tout le monde, et ça c'est un petit peu mon point de vue, donc je dépasse un petit peu mes prérogatives d'animateur, c'est comme si on présente en face de la communauté musulmane la question d'égalité des sexes comme étant quelque chose qui est bien établi au Québec, au moment où il y a beaucoup d'exemples qui démontrent que c'est un processus qui est déjà en place, beaucoup d'acquis ont été atteints par la femme québécoise, mais la démarche est encore langue, et tout à fait normal que des gens qui arrivent d'autres sociétés vont rattraper le train à des vitesses très différentes.
Bah, vous avez un peu raison, mais vous faites de l'humour, mais ce que je disais aussi, c'est beaucoup dans les échanges que j'ai avec les gens, c'est ce qui revient, je vous dirais 9 fois sur 10, quand on a, en guillemets, un problème avec les musulmans, c'est la question homme-femme. Ce qui est sain dans notre société, c'est qu'à peu près plus maintenant, on parle de terrorisme et d'Al-Qaïda, ça je pense c'est fini, on n'en parle plus. Donc, je crois que, alors que ce soit dans les représentations ou autres, mais c'est définitivement le point sur lequel les gens sont irrités, et ce qui est emblématique, c'est le hijab. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je vous dirais, c'est aux musulmans de répondre là-dessus.
Moi, je pense que c'est un problème qui se retrouve un peu des deux côtés, parce qu'on a tendance, quand on est musulman, par exemple, de comparer un idéal islamique tel que, par exemple, présenté dans les textes par rapport à certaines pratiques occidentales. On va dire, bon, nous, en islam, c'est la paix, l'islam, c'est l'amour, c'est le respect des parents, mais on oublie, c'est le respect même de la femme. La femme a un statut très positif, théoriquement, en islam, et les gens vont comparer cet idéal islamique à certaines pratiques occidentales. De la même manière, de l'autre côté, parfois on va comparer des principes, des idéaux qui sont par exemple l'égalité des sexes, la laïcité, la justice et tout ça, à certaines pratiques de certaines communautés musulmanes ou autres. Donc ce que je veux dire, c'est que ce défaut dans l'approche de comparer des idéaux à des pratiques se pose un peu des deux côtés, mais c'est effectivement, moi je suis d'accord avec Lamine, que le combat ou la lutte pour l'égalité des sexes n'est pas finie en Occident et notamment au Québec.
À titre d'exemple, je me rappelle il y a une année dans la revue Actualité, il y avait une journaliste qui a écrit un grand article le fil conducteur de l'article c'était la question de l'orientation sexuelle, où elle a parlé beaucoup des musulmans en disant que moi je ne peux pas accepter des gens qui vivent avec moi dans la même société qui sont contre le choix des orientations sexuelles, surtout pour les homosexuels. Mais ce qui est bizarre, dans la même année, les Canadiens ont voté pour quelqu'un qui s'annonce d'une façon claire contre le mariage homosexuel et même contre l'homosexualité d'une façon générale. Donc présenter des choses qui sont dans une dynamique très je dirais des fois volatile et des fois même incertaine, de rester dans le temps comme étant des valeurs indiscutables, ça pose un problème parce que le débat dans les sociétés occidentales est encore ouvert sur ces sujets-là.
Mais en même temps, il faut pas que ça justifie qu'on entérine ou qu'on accepte ou qu'on se taise sur certaines pratiques qu'il y a dans nos communautés. Ce que je veux dire, le fait que cette interpellation n'est pas nécessairement cohérente de la part de l'autre ne devrait pas nous empêcher à voir les réalités problématiques qui existent dans nos propres communautés. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un principe que tout le monde, en plus du principe que Akram, par exemple, a cité tout à l'heure, le droit d'exister, le devoir de coexister, il y a aussi, il faut appeler tout le monde à ce qu'on pourrait appeler un devoir de cohérence, que ce soit dans les majorités, la majorité francophone ou dans les minorités ethniques, il faut qu'il y ait aussi un principe de cohérence, il faut être cohérent avec nos idéaux, avec nos croyances, je ne sais pas si...
Ben tout à fait, non, absolument. Mais justement, j'en profite pour dire que même s'il y a une certaine incohérence ou certaine volatilité dans quand on regarde la société occidentale de façon générale, il ne faut pas que ça nous empêche de faire nos devoirs à l'interne aussi. Au contraire, il faut profiter de ce genre de situation pour montrer, parce que effectivement, quand on regarde les textes ou l'islam tel que il est dans les textes, c'est extraordinaire, c'est formidable, mais malheureusement dans nos pratiques il y a du culturel qui rentre dedans, il y a de la pression que nos parents, nos grands-parents ont subi par le colonialisme dans nos pays d'origine, qui influence notre façon de faire. Il y a tellement de facteurs que justement c'est l'occasion, nous ici au Québec, communauté musulmane, d'autant plus que moi je me rappelle une des interventions de Frédéric Castel dans il y a quelques jours, où il disait que, vous savez, vous ne trouvez pas une communauté musulmane meilleure, enfin, je dors dans le sens avec sa capacité intellectuelle ou sa force intellectuelle, comme celle que vous avez ici dans le Québec. Donc, profitons-en, nous, justement, de notre côté, et faisons émerger la place de la femme dans l'islam, et ça, il faut que ça soit dans nos pratiques. Nous le faisons, mais nous le faisons pas assez. Donc, il faut que tout le monde verra à ce moment-là qu'effectivement, c'est non seulement l'égalité, mais on a la femme musulmane, elle a une place très choyée, très importante dans la société musulmane.
Mais je répète aussi, si vous permettez, que je suis beaucoup aussi au niveau des représentations. C'est très important. Beaucoup de Québécois en dehors de Montréal n'ont jamais rencontré de musulman de leur vie. Et pour eux, ils sont devant un musulman imaginaire. Alors, bon, sans nier du tout qu'il peut y avoir des questions contestables dans les rapports hommes-femmes dans l'islam, il ne s'agit pas du tout de cacher ça. Mais il est très important de comprendre que les Québécois qui ne vivent pas à Montréal, qui n'ont jamais rencontré de musulmans, qui n'ont pas de rapport personnel avec eux, la musulmane, c'est la femme qui porte la burqa en Afghanistan. Il faut bien comprendre ça. Et c'est évident qu'on projette sur les musulmans d'ici le pattern. Et chaque fois que des gens voient des femmes avec un portant un hijab ici, ils s'imaginent que voici la femme soumise portant la burqa afghane. Et encore une fois, si je vous disais qu'on ne connaît pas la communauté musulmane dans son profil sociologique, mais encore, on connaît encore bien moins la femme musulmane, qui est une des plus instruites probablement du monde occidental, sinon du monde musulman et ailleurs. Et il faut qu'elle se fasse connaître elle-même.
Mais je dirais même au-delà, je dirais c'est vrai, mais je dirais que au-delà de la communauté québécoise d'ascendance française, il y a aussi notre communauté. Je dirais il y a heureusement une minorité, mais il y a de nos concitoyens de la communauté qui eux aussi viennent avec l'esprit de ce qu'ils ont vécu dans nos pays d'origine et ils essayent d'extrapoler ça ici, alors que c'est complètement différent.
Il nous reste 4 minutes. Je vous demanderai, donc je ferai un tour de table d'une minute, soit sur une note optimiste ou une note pessimiste. Aziz.
Moi, je dirais peut-être plus un commentaire par rapport au processus que Astrolab a adopté pour rédiger ce mémoire. Je leur dis félicitations parce que, étant un peu de l'intérieur et tout ça, j'ai vu comment ils se sont ouverts, que ce soit des rencontres avec des cadres associatifs qui ne sont pas nécessairement membres d'Astrolab, qui peuvent même parfois, qui pouvaient avoir des points de vue qui étaient un peu différents de ce que voulait peut-être Astrolab exprimer et tout ça. Donc, je profite un peu de cette occasion pour rappeler aussi un débat intracommunautaire, parce que jusqu'à maintenant je constate que il y a des débats mais de façon un peu trop sectaire, c'est-à-dire des associations à référence musulmane entre elles, les associations un peu laïques entre elles. Moi j'ai à cœur de profiter de cette occasion pour rappeler un dialogue intracommunautaire.
Moi, je dirais Astrolab, hein, on est conscient de ce qui se passe actuellement avec les accommodements raisonnables, on est très optimiste et je crois que je suis très confiant dans la commission des accommodements raisonnables. Et le 31 mars, je crois qu'on va avoir des choses très intéressantes pour un vivre ensemble harmonieux entre les minorités, la majorité de l'ascendance française, et je crois que l'avenir va nous sourire, Inch'Allah.
Frédéric.
Je crois qu'on n'a pas le droit d'être pessimiste. Je vous aurais peut-être pas dit ça il y a un mois, mais compte tenu du profil justement sociologique sur lequel je reviens souvent en ce qui concerne la communauté musulmane, c'est une richesse que l'on a. Il faut, je vous dirais, presque en profiter. On n'a pas le droit de baisser les bras. Il y a quand même des choses qui sont extrêmement intéressantes qui sont en train de se faire. Et puis, en ce qui concerne la commission Bouchard-Taylor, je crois que, compte tenu de ce qui a été dit, vous avez un certain nombre de personnes qui semblent être mal éclairées vis-à-vis de la communauté musulmane. Il faut d'abord lui répondre, c'est ce qu'elle veut, et il faut battre en brèche quelques idées reçues, quelques idées fausses. Par la suite, on pourra lancer des pistes de réflexion et cerner des concepts comme un commandement raisonnable et laïcité. Et je pense qu'il faut répondre d'abord aux inquiétudes des gens. Voilà.
Docteur Nassima.
Moi, je dirais que c'était une belle occasion pour se faire connaître la communauté musulmane. Et d'après tout ce qu'on est en train de voir concernant le déroulement des accommodements, on fait vraiment confiance au jugement des deux commissaires Bouchard et Taylor. Donc, ça va être dans le sens positif pour nous. Merci.
Merci. Donc, merci à mes invités. Je rappelle que ce soir, à Taxi Maghreb, on a parlé d'accommodement raisonnable de commission Bouchard-Taylor. On avait donc Dr Nassima Mahia, qui est membre et porte-parole d'Astrolab, Dr Akram Binalia, qui est responsable de la communication et des relations extérieures d'Astrolab, membre du CA, et de Abdelaziz Jaoud, doctorant en sociologie, et de Monsieur Frédéric Castel, religiologue, on peut dire un des plus grands spécialistes de la communauté musulmane en termes de démographie et d'un point de vue sociologique ici au Québec. Merci à vous tous, merci à nos auditeurs qui étaient avec nous jusqu'à minuit, merci aux auditeurs qui ont participé avec nous à l'émission. Je tiens à vous rappeler que pour les auditeurs de la communauté haïtienne, soyez patients, tambour battant, on va arriver dans quelques instants. Monsieur Michel Bolivar est en train de se préparer pour avoir les clés de la ville de Montréal qui vont lui être données par le maire. J'espère qu'il va déneiger toute la ville ce soir. Il aura jusqu'à 6h du matin pour le faire. Eh bien, Taxi Maghreb vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Je vous rappelle que le 21 décembre prochain, il y aura un spectacle à l'occasion de Eid al-Adha pour la communauté algérienne et maghrébine au restaurant Le Mosaïque avec Cheb Yazid et Naïm Abebsa. Pour avoir plus d'informations, allez-y sur le site AlgerWeb, le site de la communauté algérienne et maghrébine à Montréal. Et à la même occasion, on tient à dire bon anniversaire à AlgerWeb, puisque le 27 novembre passé, c'était 10 ans d'AlgerWeb, le premier portail de la communauté algérienne à travers le monde. C'était AlgerWeb qui a fêté ses 10 ans. Eh bien, et on vous donne rendez-vous avec Taxi Maghreb dans 15 jours. Et on vous laisse avec Nahima.